Salut à toutes et à tous, bienvenue sur cette émission spéciale Jeux pourris. Alors ça faisait longtemps que l'on voulait en faire un, c'est maintenant chose faite et on commence avec un gros morceau, mesdames et messieurs, Pit Fighter. Pit Fighter est à l'origine un jeu d'arcade développé par Atari Games en 1990. Celui-ci avait le mérite de proposer pour la première fois un versus fighting où les combattants étaient représentés sous forme de digitalisation à partir de véritables acteurs, devançant ainsi l'excellent Mortal Kombat sorti 2 ans après. Malheureusement, le résultat final n'était vraiment pas à la hauteur. Et Pit Fighter a aussi la réputation d'être l'un des pires jeux de combat de l'histoire à cause d'un gameplay incompréhensible, de graphismes de mauvaise qualité et d'une animation totalement saccadée. Malgré tous ses défauts, Pit Fighter a été adapté sur une douzaine de machines de l'époque et ses conversions sont tout aussi pourries les unes que les autres. Tenez comme par exemple celle sur Atari ST, qui est un véritable cauchemar vidéoludique. Logiquement moins réussi que la version arcade, celui-ci est tout simplement injouable, et même avec la meilleure volonté du monde, les contrôles sont d'une lenteur ahurissante. Avec à peine 3 frames d'animation pour chaque coup, on a plus l'impression de contrôler des Playmobil ou des Lego plutôt que des professionnels en arts martiaux. Et que dire des décors avec comme toile de fond des spectateurs complètement déchaînés et mal animés qui ressemblent à un amas de pixels grisâtres. Maintenant, on peut toujours se poser la question à savoir si Pit Fighter était technologiquement trop en avance sur son temps. Probablement, mais on salue le geste. Autobahn Tokyo, voilà un nom qui en jette, c'est bel et bien de l'allemand. Pourquoi ? On n'en sait rien et à vrai dire on s'en fout. À la vue de la jaquette, à l'idée de conduire des voitures de sport japonaises sur les autoroutes de la capitale nippone, on ne peut que s'imaginer jouer à une adaptation officieuse de Initial D, avant de très vite s'apercevoir que le D est probablement l'initiale de Daube. Car dès l'écran type, la voix off enjouée criant « Autobahn Tokyo » ne cache pas un décor défilant de manière totalement saccadée et nous faisant craindre le pire. Et ce n'est pas le menu qui lèvera nos doutes. Un mode championnat qui n'a de championnat que le nom, un mode time attack, la consultation des meilleurs scores et les options sont les seuls choix possibles. Le mode championnat vous proposera de rouler sur 3 tracés différents, avec un choix de 4 véhicules qui ressemblent vaguement à une Honda CRX, une Mazda RX-7, une Mitsubishi Lancer Evolution et une Nissan Skyline GT. N'étant pas un spécialiste, les connaisseurs rectifieront de même, du moins s'ils sont également connaisseurs en Lego. Et nous voici sur la ligne de départ. Pied au plancher, le rugissement d'un moteur au bord de l'apoplexie nous laisse dubitatif quant à la possibilité d'atteindre la ligne d'arrivée plutôt que de se retrouver en rade sur le bord de la route. Et c'est parti! L'impression que nous avions à l'écran titre se confirme. L'animation est affreusement saccadée, les graphismes font saigner les yeux et la voiture est à la limite du contrôlable. Tellement incontrôlable que même la console n'arrive pas à manier son véhicule, qui se prendra autant de murets et autres glissières que le joueur. Ajoutez à ça les autres véhicules lambda qui parsèment les circuits, vous n'avez pas fini de faire du stock-car. En mode time attack, vous serez seul sur la route, mais le maniement étant tellement atroce, cela ne facilitera pas plus la conduite. Bref, avec sa réalisation épouvantable dont seules les musiques ne donnent pas la nausée, ce qui n'est pas grand-chose d'ailleurs, et son contenu honteusement ridicule, ce soft est la risée des jeux de course sur 3DO. Autobahn Tokyo, c'est le Ridge Racer du pauvre sur une console de riche. Après la guerre de 1999, le général Agboub ferma les frontières de son pays. Flairant le scoop, de nombreux journalistes allèrent sur place pour voir ce qui s'y passe. L'une de ces reporters découvrira qu'une usine de lait premier âge sert en réalité de couverture à la fabrication d'armes chimiques et de soldats mutants. N'appréciant guère que ces petites combines soient révélées, le dictateur fera enfermer tous les journalistes. Le seul moyen de libérer les otages et de se débarrasser du général Agboub est d'envoyer sur place deux soldats surentraînés et surarmés, le capitaine Carnage et le major Mayhem. C'est sur ce pitch, nous promettant poésie et tendresse, que s'ouvre Total Carnage, la suite spirituelle de Smash TV. Le jeu, d'abord sorti en arcade, fut rapidement adapté sur console et micro. Super Nintendo, Amiga, Amiga CD32, PC et plus tard sur Jaguar. Le titre n'étant pas franchement une réussite, le succès fut plus que mitigé. Mais il existe une version dont la médiocrité atteint de tels sommets que la plupart des sites de jeux vidéo, volontairement ou non, ne le référencent pas. Il s'agit de la version Game Boy. Pourtant, sorti à la même période que les autres versions, aux États-Unis et en Europe, ce portage sur la nomade monochrome de Nintendo semble avoir été oublié par une majorité de joueurs. Dans un sens, cela se comprend aisément. Si le titre reprend globalement tous les éléments de son menu, la réalisation, elle, est une véritable honte. Admirez donc ses graphismes, ses magnifiques décors, son million de détails, et votre personnage, qui manifestement a passé plus de temps à muscler le haut que le bas, ne ressemble pas à grand-chose. Néanmoins, celui-ci s'en tire toujours mieux que les ennemis qui, eux, ne ressemblent vraiment à rien. Ces derniers ne sont d'ailleurs pas gâtés intellectuellement, fonçant bêtement sur vous sans même être armés, servant uniquement de cibles mouvantes et de chair à canon. Les thèmes musicaux sont si bons qu'on ne les entend que dans les menus, alors que les bruitages sont un hommage émouvant à l'Atari 2600, tant ils nous donnent l'impression de revenir 15 ans en arrière. Notons tout de même que la maniabilité du soft, même si elle est loin d'être parfaite, reste tout à fait correcte, ce qui nous évite de justesse la crise de nerfs. Avec des bonus à foison et des vies supplémentaires par caisse entière, ce titre à la difficulté bas de plafond ne vous opposera guère de résistance. Mais c'est peut-être voulu par les programmeurs, car vu les qualités de leur œuvre, mieux vaut finir le jeu le plus rapidement possible. Tenir 5 minutes, c'est bien, mais passer les 10 minutes, la cartouche atterrira vite fait bien fait au fond d'une benne à ordures. Notez quand même que le jeu arbore fièrement le sigle Original Nintendo Seal of Quality, ce qui prouve la crédibilité de ce logo. La console Neo Geo a accueilli en son sein de nombreuses séries de versus fighting qui ont fait son succès. Parmi elles, la saga World Heroes est celle qui a été la plus malmenée par les joueurs et la critique, malgré ses qualités intrinsèques incontestables. Cela ne l'a pas empêché d'être porté sur d'autres consoles, et ce, dès son premier opus. Il y a eu d'abord la version Super Nintendo, portée par Samsung. Cette version de fort bonne facture et extrêmement fidèle à l'original ne souffrait au final que d'un seul gros défaut, une animation bien trop lente, même pour la version NTSC. Et puis il y a eu le drame, la version sur Mega Drive. S'il est acquis que la 16 bits de Sega ne pouvait faire jeu égal avec la Neo Geo, face à sa concurrente de chez Nintendo, elle pouvait aisément se défendre. Alors comment peut-on en arriver à un tel massacre? Vraiment, on se le demande. admirer ses graphismes et sa palette hallucinante d'une quarantaine de couleurs. Pour un même décor, la version Super NES en affichait plus de 100 et la version Neo Geo presque 200. C'est tellement beau que l'on se croirait sur Master System. Côté sonore, ce n'est malheureusement guère plus joyeux. Les bruitages grésillent, se mariant parfaitement aux musiques de piètre qualité. Une bonne partie des musiques originales étant même passée à la trappe, sans que l'on sache vraiment pourquoi. Mais l'horreur atteint son paroxysme une fois la manette en main. Si la maniabilité reste somme toute correcte, sortir un coup spécial s'avérera être une véritable épreuve de force. Ajoutez à cela une gestion de collision totalement foireuse, ainsi que de nombreux bugs d'animation, et vous aurez compris que cette conversion honteuse est à reléguer aux oubliettes. Mais le plus triste dans cette histoire, c'est que ce portage est l'œuvre de trois programmeurs. James Theodore Reichert, John Lawrence Walsh et Jonathan Murphy, tous trois travaillant pour Sega of America. Et oui, même les employés de la firme au hérisson sont capables de la pire atrocité sur leur propre machine. Et ces petits gars en sont tellement fiers qu'ils se montrent même au grand jour si vous entrez JJJ comme initiale de high score. À moins que ce ne soit une punition de la hiérarchie. Allez savoir. On continue cette émission spéciale grosse daube avec le célèbre Astérix sur Atari 2600. Alors le gros point négatif est que ce soft n'a pas grand chose à voir avec l'univers original de la bande dessinée. On se contente de se déplacer entre 8 lignes horizontales pour attraper des objets, comme des chaudrons, des casques romains, tout en évitant les arpes d'Assurance Tourix. Il faudra aussi beaucoup d'imagination pour reconnaître la tête d'Astérix, et encore plus pour le sprite censé représenter Obélix, qui ressemble plus à un tire-bouchon qu'autre chose. Il faut noter que cette cartouche est en réalité un clone du jeu Taz, sorti quelques mois auparavant en 1983. Et comme la popularité de l'Atari 2600 commençait à décliner en Europe, Atari Corporation eut la brillante idée de prendre le code source du jeu Taz et de changer uniquement les sprites afin d'attirer un public plus familier avec la célèbre bande dessinée des deux Gaulois, bien plus populaire que le personnage des Looney Tunes. Le pire dans toute cette histoire, c'est qu'à peine un an après, sortit Obélix, un vrai jeu original ressemblant bien plus à l'univers de la BD. Comme quoi, il suffisait d'un peu de travail et d'imagination pour réaliser quelque chose qui tienne la route, et non pas se contenter de cloner pour des raisons commerciales. Série peu connue pour un développeur qui l'est tout autant, du moins en Occident, Kiryu no Ken est pourtant la saga phare de Culture Brain. Initiée en arcade, la série multipliera les apparitions sur les consoles Nintendo, de la Famicom à la Nintendo 64, en faisant un petit détour par la PlayStation. Mais intéressons-nous à la première incursion de la saga sur Super Famicom. Kiryu no Ken S vous place dans la peau de Rikuli, un guerrier dragon qui devra défaire Ryumaou Fuzufu, un démon fraîchement ressuscité. Rikuli devra donc jouer des pieds et des poings pour accomplir sa mission dans ce jeu typé beat'em up. Classique dans son déroulement, le jeu s'oriente plus vers de la baston pure lors de l'affrontement d'un ennemi plus coriace. Intéressant sur le papier, beaucoup moins dans les faits, Kiryu no Ken est un titre à la réalisation assez déplorable. Au graphisme très moyen, s'ajoute une bande-son bancale et une maniabilité assez perfectible. Mais c'est surtout au niveau de l'animation que le jeu prend cher. Saccadé tant sur le scrolling que sur le déplacement des personnages, avec une gestion des collisions totalement foireuse en prime. Les ennemis, qui souvent jailliront du sol, on ne sait d'ailleurs pas trop pourquoi, disposent parfois d'étapes d'animation qui ne collent pas avec les mouvements qu'ils sont en train d'effectuer. Bref, Kiryu Noken S accumule les tares qui font de lui un titre à oublier. Mais ne soyons pas de mauvaise foi. Contrairement aux autres jeux de cette sélection, Kiryu Noken n'est pas réellement une daube, tout au plus un mauvais jeu. C'est surtout sa mise à jour estampillée Hyper Version et sortie 5 mois plus tard qui lui vaut sa place ici. Ajoutant un mode Battle, la possibilité de gérer la vitesse des combats et disposant les ennemis différemment par rapport à la première version tout en offrant une palette de couleurs différentes pour certains décors. À ce moment précis, on pourrait espérer que cette mise à jour ait servi à corriger les écueils cités précédemment. Eh bien même pas! Tous les défauts sont restés tels quels. Et cette cartouche, vendue au même prix que la précédente, a dû faire grincer les dents des premiers acheteurs. En fait, de tous les acheteurs même. Avec cette mise à jour inutile vendue au prix fort, Culture Brain fut un éditeur pionnier, avec Capcom, dans cette détestable habitude marketing qui est malheureusement devenue depuis la norme. Attention, chef-d'œuvre. Nous vous avons gardé le meilleur pour la fin avec un titre venu tout droit de Pologne, un titre qui sent la sueur, le sang et la vodka. Franco, The Crazy Revenge nous emmène dans la Pologne de la fin des années 80. Après des décennies de communisme, le pays doit se reconstruire. Les villes ne sont plus que des zones de non-droit où règne la violence et le commerce de drogue. Dans ce chaos des cités, Franco va se battre pour venger la mort de son ami. Inutile de faire de longs discours, les images parlent d'elles-mêmes. Ce jeu est tellement beau que l'on croirait voir une production Jean-Pierre Software, le côté assumé en moins. Admirez ces graphismes en 8 couleurs, ces sprites aux proportions douteuses, ces décors variés qui ont, à leur décharge, l'avantage de bien nous plonger dans l'ambiance du sort. L'unique bouton de la manette Amiga offre une jouabilité exemplaire où toute action doit combiner le dit bouton et une direction pour offrir un panel de coups variés. Autant dire que se déplacer et frapper en même temps est une véritable partie de plaisir. Les trois niveaux qui composent le jeu ne se diversifieront pas beaucoup pour éviter aux joueurs d'être effrayés par trop de changements. Let's go. Seul un stage bonus, entrecoupant les niveaux principaux, viendra vous sortir de la torpeur. Un petit tour en Fiat Panda, en évitant les honnêtes citoyens et en écrasant la racaille, vous permettra de récupérer de l'énergie pour la manche suivante. La bande sonore est à l'image des niveaux. Les quelques notes qui composent les boucles de 10 secondes répétées indéfiniment vous plongeront dans la monotonie déjà bien installée par la très longue traversée du niveau, entrecoupée toutes les 30 secondes par d'intempestifs chargements. Heureusement, les programmeurs n'étant pas de vils sadiques, le soft n'est jouable qu'à une seule personne, malgré le choix entre deux personnages au début de la partie. Ainsi, vous ne perdrez pas d'amis en lui faisant subir l'outrage de jouer à Franco. Let's go. Malgré toutes ses qualités intrinsèques, et à l'instar des nanars cinématographiques, Franco a réussi à se faire une communauté de fans. Tant et si bien que pour fêter les 20 ans du jeu, son auteur a lancé une campagne de financement participative pour développer une suite sobrement intitulée Franco 2 The Revenge is Back. Le titre devrait d'ailleurs sortir cette année sur terminaux mobiles, PC, mais également sur Amiga. Si vous ne disposez pas d'un Amiga, mais souhaitez ardemment tester cette perle, sachez que le jeu fut porté en 1996 sur PC dans une version améliorée. Plus colorée, plus rapide, cette conversion perd donc un peu ce côté nanar qui fit jadis son succès. We'll be right back.
Oui.